Section 13 de La Fortune des Rougon par Émile Zola. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Bidou. Suite du chapitre 6. Il était 10 heures. Plassans, éveillé, courait les rues, ahuri de la rumeur qui montait. Ceux qui avaient vu ou entendu la bande insurrectionnelle racontaient des histoires à dormir debout, se contredisaient, avançaient des suppositions atroces. Mais le plus grand nombre ne savait même pas ce dont il s'agissait. Ceux-là demeuraient aux extrémités de la ville et ils écoutaient, bouche béante, comme un conte de nourrice, cette histoire de plusieurs milliers de bandits envahissant les rues et disparaissant avant le jour, ainsi qu'une armée de fantômes. Les plus sceptiques disaient « Allons donc !» Cependant, certains détails étaient précis. Plassans finit par être convaincu qu'un épouvantable malheur avait passé sur lui pendant son sommeil, sans le toucher. Cette catastrophe mal définie empruntait aux ombres de la nuit, aux contradictions des divers renseignements, un caractère vague, une horreur insondable qui faisait frissonner les plus braves. Qui donc avait détourné la foudre? Cela tenait du prodige. On parlait de sauveurs inconnus, d'une petite bande d'hommes qui avaient coupé la tête de l'hydre, mais sans détail, comme d'une chose à peine croyable. Lorsque les habitués du Salon Jaune se répandirent dans les rues, semant les nouvelles, refaisant devant chaque porte le même récit. Ce fut une traînée de poudre. En quelques minutes, d'un bout à l'autre de la ville, l'histoire courut. Le nom de Rougon vola de bouche en bouche, avec des exclamations de surprise dans la ville neuve, des cris d'éloge dans le vieux quartier. L'idée qu'ils étaient sans sous-préfet, sans maire, sans directeur des postes, sans receveur particulier, sans autorité d'aucune sorte, consterna d'abord les habitants. Ils restaient stupéfaits d'avoir pu achever leur somme et de s'être réveillés comme à l'ordinaire, en dehors de tout gouvernement établi. La première stupeur passée, ils se jetèrent avec abandon dans les bras des libérateurs. Les quelques républicains haussaient les épaules. Mais les petits détaillants, les petits rentiers, les conservateurs de toute espèce, bénissaient ces héros modestes, dont les ténèbres avaient caché les exploits. Quand on sut que Rougon avait arrêté son propre frère, l'admiration ne connut plus de bornes. On parla de Brutus. Cette indiscrétion qu'il redoutait tourna à sa gloire. À cette heure d'effroi mal dissipée, la reconnaissance fut unanime. On acceptait le sauveur Rougon sans le discuter. « Songez donc, disaient les poltrons, il n'était que 41. » Ce chiffre de 41 bouleversa la ville. C'est ainsi que naquit à Plassans la légende des 41 bourgeois faisant mordre la poussière à 3000 insurgés. Il n'y eut que quelques esprits envieux de la ville neuve, des avocats sans cause, d'anciens militaires, honteux d'avoir dormi cette nuit-là, qui élevèrent certains doutes. En somme, les insurgés étaient peut-être partis tout seuls. Il n'y avait aucune preuve de combat, ni cadavre, ni tache de sang. Vraiment, ces messieurs avaient eu la besogne facile. « Mais la glace !» répétaient les fanatiques. « Vous ne pouvez pas nier que la glace de monsieur le maire soit cassée, allez donc la voir !» Et en effet, jusqu'à la nuit, il y eut une procession d'individus qui, sous mille prétextes, pénétrèrent dans le cabinet, dont Rougon laissait d'ailleurs la porte grande ouverte. Ils se plantaient devant la glace, dans laquelle la balle avait fait un trou rond, d'où partaient de larges cassures. Puis tous murmuraient la même phrase. « Fichtre, la balle avait une fière force !» Et ils s'en allaient, convaincus. Félicité, à sa fenêtre, humait avec délice ses bruits, ses voix élogieuses et reconnaissantes qui montaient de la ville. Tout Plassans, à cette heure, s'occupait de son mari. Elle sentait les deux quartiers, sous elle, qui frémissaient, qui lui envoyaient l'espérance d'un prochain triomphe. Ah ! Comme elle allait écraser cette ville qu'elle mettait si tard sous ses talons. Tous ses griefs lui revinrent. Ses amertumes passées redoublèrent ses appétits de jouissance immédiate. Elle quitta la fenêtre. Elle fit lentement le tour du salon. C'était là que, tout à l'heure, les mains se tendaient vers eux. Ils avaient vaincu. La bourgeoisie était à leurs pieds. Le salon jaune lui parut sanctifié. Les meubles éclopés, le velours éraillé, le lustre noir de chiure, toutes ces ruines prirent à ses yeux un aspect de débris glorieux traînant sur un champ de bataille. La plaine d'Austerlitz ne lui eut pas causé une émotion aussi profonde. Comme elle se remettait à la fenêtre, elle aperçut Aristide qui rôdait sur la place de la sous-préfecture, le nez en l'air. Elle lui fit signe de monter. Il semblait n'attendre que cet appel. « Entre donc !» lui dit sa mère sur le palier en voyant qu'il hésitait. « Ton père n'est pas là !» Aristide avait l'air gauche d'un enfant prodigue. Depuis près de 4 ans, il n'était plus entré dans le salon jaune. Il tenait encore son bras en écharpe. « Ta main te fait toujours souffrir ?» lui demanda railleusement Félicité. Il rougit. Il répondit avec embarras. « Oh, ça va beaucoup mieux, c'est presque guéri. » Puis il resta là, tournant, ne sachant que dire. Félicité vint à son secours. « Tu as entendu parler de la belle conduite de ton père ? » reprit-elle. Il dit que toute la ville en causait. Mais son aplomb revenait. Il rendit à sa mère sa raillerie. Il la regarda en face, en ajoutant. « J'étais venu voir si papa n'était pas blessé. » « Tiens, ne fais pas la bête !» s'écria Félicité avec sa pétulance. « Moi, à ta place, j'agirais très carrément. Tu t'es trompé, là, avoue-le, en t'enrôlant avec tes gueux de républicains. Aujourd'hui, tu ne serais pas fâché de les lâcher et de revenir avec nous, qui sommes les plus forts. Eh, la maison t'est ouverte !» Mais Aristide protesta. La République était une grande idée. Puis, les insurgés pouvaient l'emporter. « Laisse-moi donc tranquille !» continua la vieille femme irritée. « Tu as peur que ton père te reçoive mal? Je me charge de l'affaire. Écoute-moi, tu vas aller à ton journal, tu rédigeras d'ici à demain un numéro très favorable au coup d'État, et demain soir, quand ce numéro aura paru, tu reviendras ici, tu seras accueilli à bras ouverts. » Et comme le jeune homme restait silencieux, « Entends-tu » poursuivit-elle d'une voix plus basse et plus ardente. « C'est de notre fortune, c'est de la tienne qu'il s'agit. Ne va pas recommencer tes bêtises. Tu es déjà assez compromis comme cela. » Le jeune homme fit un geste, le geste de César passant le Rubicon. De cette façon, il ne prenait aucun engagement verbal. Comme il allait se retirer, sa mère ajouta, en cherchant le nœud de son écharpe. « Et d'abord, il faut m'ôter ce chiffon-là, ça devient ridicule, tu sais ?» Aristide la laissa faire. Quand le foulard fut dénoué, il le plia proprement et le mit dans sa poche. Puis il embrassa sa mère en disant « À demain !» Pendant ce temps, Rougon prenait officiellement possession de la mairie. Il n'était resté que 8 conseillers municipaux. Les autres se trouvaient entre les mains des insurgés, ainsi que le maire et les 2 adjoints. Ces 8 messieurs, de la force de Granou, eurent des sueurs d'angoisse lorsque ce dernier leur expliqua la situation critique de la ville. Pour comprendre avec quel effarement ils vinrent se jeter dans les bras de Rougon, il faudrait connaître les bonhommes dont sont composés les conseils municipaux de certaines petites villes. À Plassans, le maire avait sous la main d'incroyables buses, de purs instruments d'une complaisance passive. Aussi, M. Garçonnet n'étant plus là, la machine municipale devait se détraquer et appartenir à quiconque saurait en ressaisir les ressorts. À cette heure, le sous-préfet ayant quitté le pays, Rougon se trouvait naturellement, par la force des circonstances, le maître unique et absolu de la ville. Crise étonnante, qui mettait le pouvoir entre les mains d'un homme taré, auquel la veille, pas un de ses concitoyens n'aurait prêté 100 francs. Le premier acte de Pierre fut de déclarer en permanence la commission provisoire. Puis, il s'occupa de la réorganisation de la garde nationale et réussit à mettre sur pied 300 hommes. Les 109 fusils restés dans le hangar furent distribués, ce qui porta à 150 le nombre des hommes armés par la réaction. Les 150 autres gardes nationaux étaient des bourgeois de bonne volonté et des soldats à Sicardo. Quand le commandant Roudier passa la petite armée en revue sur la place de l'hôtel de ville, il fut désolé de voir que les marchands de légumes riaient en dessous. Tous n'avaient pas d'uniforme, et certains se tenaient bien drôlement avec leurs chapeaux noirs, leurs redingotes et leurs fusils. Mais au fond, l'intention était bonne. Un poste fut laissé à la mairie. Le reste de la petite armée fut dispersé par peloton aux différentes portes de la ville. Roudier se réserva le commandement du poste de la grande porte, la plus menacée. Rougon, qui se sentait très fort en ce moment, alla lui-même rue Cancoin pour prier les gendarmes de rester chez eux, de ne se mêler de rien. Il fit d'ailleurs ouvrir les portes de la gendarmerie, dont les insurgés avaient emporté les clés. Mais il voulait triompher seul. Il n'entendait pas que les gendarmes puissent lui voler une part de sa gloire. S'il avait absolument besoin d'eux, il les appellerait. Et il leur expliqua que leur présence, en irritant peut-être les ouvriers, ne ferait qu'aggraver la situation. Le brigadier le complimenta beaucoup sur sa prudence. Lorsqu'il apprit qu'il y avait un homme blessé dans la caserne, Rougon voulut se rendre populaire. Il demanda à le voir. Il trouva Rangade couché, l'œil couvert d'un bandeau, avec ses grosses moustaches qui passaient sous le linge. Il réconforta, par de belles paroles sur le devoir, le borgne jurant et soufflant, exaspéré de sa blessure, qui allait le forcer à quitter le service. Il promit de lui envoyer un médecin. « Je vous remercie bien, monsieur, » répondit Rangade. « Mais, voyez-vous, ce qui me soulagerait mieux que tous les remèdes, ce serait de tordre le cou au misérable qui m'a crevé l'œil. Oh, je le reconnaîtrais, c'est un petit maigre, palot, tout jeune. » Pierre se souvint du sang qui couvrait les mains de Silver. Il eut un léger mouvement de recul, comme s'il eût craint que Rangan ne lui sautât à la gorge en disant « C'est ton neveu qui m'a éborgné, attends, tu vas payer pour lui !» Et tandis qu'il maudissait tout bas son indigne famille, il déclara solennellement que, si le coupable était retrouvé, il serait puni avec toute la rigueur des lois. « Non, non, ce n'est pas la peine !» répondit le borgne. « Je lui tendrai le cou !» Rougon s'empressa de regagner la mairie. L'après-midi fut employé à prendre diverses mesures. La proclamation, affichée vers 1 heure, produisit une impression excellente. Elle se terminait par un appel au bon esprit des citoyens et donnait la ferme assurance que l'ordre ne serait plus troublé. Jusqu'au crépuscule, les rues, en effet, offrirent l'image d'un soulagement général, d'une confiance entière. Sur les trottoirs, les groupes qui lisaient la proclamation disaient « C'est fini, nous allons voir passer les troupes envoyées à la poursuite des insurgés ». Cette croyance que des soldats approchaient devint telle que les oisifs du cours Sauvert se portèrent sur la route de Nice pour aller au-devant de la musique. Ils revinrent à la nuit, désappointés, n'ayant rien vu. Alors une inquiétude sourde courut la ville. À la mairie, la commission provisoire avait tant parlé pour ne rien dire que les membres, le ventre vide, effarés par leur propre bavardage, sentaient la peur les reprendre. Rougon les envoya dîner en les convoquant de nouveau pour 9 heures du soir. Il allait lui-même quitter le cabinet lorsque Macquart s'éveilla et frappa violemment à la porte de sa prison. Il déclara qu'il avait faim, puis il demanda l'heure. Et quand son frère lui dit qu'il était 5 heures, il murmura, avec une méchanceté diabolique, en feignant un vif étonnement, que les insurgés lui avaient promis de revenir plus tôt et qu'il tardait bien à le délivrer. Rougon, après lui avoir fait servir à manger, descendit, agacé par cette insistance de Macquart à parler du retour de la bande insurrectionnelle. Dans les rues, il éprouva un malaise. La ville lui parut changée. Elle prenait un air singulier. Des ombres filaient rapidement le long des trottoirs. Le vide et le silence se faisaient et, sur les maisons mornes, semblait tomber, avec le crépuscule, une peur grise, lente et opiniâtre comme une pluie fine. La confiance bavarde de la journée aboutissait fatalement à cette panique sans cause, à cet effroi de la nuit naissante. Les habitants étaient là, rassasiés de leur triomphe, à ce point qu'il ne leur restait des forces que pour rêver des représailles terribles de la part des insurgés. Rougon frissonna dans ce courant d'effroi. Il hâta le pas, la gorge serrée. En passant devant un café de la place des Récollets, qui venait d'allumer ses lampes, et où se réunissaient les petits rentiers de la Villeneuve, il entendit un bout de conversation très effrayant. « Eh bien, monsieur Picou, disait une voix grasse, vous savez la nouvelle? Le régiment qu'on attendait n'est pas arrivé. »« Mais on n'attendait pas de régiment, monsieur Touche, répondait une voix aigre. « Faites excuse, vous n'avez donc pas lu la proclamation ?»« C'est vrai, les affiches promettent que l'ordre sera maintenu par la force, c'est nécessaire. »« Voyez bien, il y a la force armée, cela s'entend. »« Et que dit-on? Mais vous comprenez, on a peur. On dit que ce retard des soldats n'est pas naturel, et que les insurgés pourraient bien les avoir massacrés. » Il y eut un cri d'horreur dans le café. Rougon eut envie d'entrer pour dire à ses bourgeois que jamais la proclamation n'avait annoncé l'arrivée d'un régiment, qu'il ne fallait pas forcer les têtes à ce point, ni colporter de pareils bavardages. Mais lui-même, dans le trouble qui s'emparait de lui, n'était pas bien sûr de ne pas avoir compté sur un envoi de troupes, et il en venait à trouver étonnant, en effet, que pas un soldat n'eût paru. Il rentra chez lui très inquiet. Félicité, toute pétulante et pleine de courage, s'emporta, en le voyant bouleversé par de telles niaiseries. Au dessert, elle le réconforta. « Eh, grande bête, dit-elle, tant mieux. Si le préfet nous oublie, nous sauverons la ville à nous tout seuls. Moi, je voudrais voir revenir les insurgés pour les recevoir à coups de fusil et nous couvrir de gloire. Écoute, tu vas fermer les portes de la ville, puis tu ne te coucheras pas. Tu te donneras beaucoup de mouvements toute la nuit. Ça te sera compté plus tard. » Pierre retourna à la mairie, un peu ragaillardi. Il lui fallut du courage pour rester ferme au milieu des doléances de ses collègues. Les membres de la commission provisoire rapportaient dans leurs vêtements la panique, comme on rapporte avec soi une odeur de pluie par les temps d'orage. Tous prétendaient avoir compté sur l'envoi d'un régiment, et ils s'exclamaient en disant qu'on n'abandonnait pas de la sorte de braves citoyens aux fureurs de la démagogie. Pierre, pour avoir la paix, leur promit presque à leur régiment pour le lendemain. Puis il déclara avec solennité qu'il allait faire fermer les portes. Ce fut un soulagement. Des gardes nationaux durent se rendre immédiatement à chaque porte, avec ordre de donner un double tour aux serrures. Quand ils furent de retour, plusieurs membres avouèrent qu'ils étaient vraiment plus tranquilles. Et lorsque Pierre eut dit que la situation critique de la ville leur faisait un devoir de rester à leur poste, il y en eut qui prirent leurs petites dispositions pour passer la nuit dans un fauteuil. Granoux, mit une calotte de soie noire qu'il avait apportée par précaution. Vers 11 heures, la moitié de ces messieurs dormaient autour du bureau de M. Garçonnet. Ceux qui tenaient encore les yeux ouverts faisaient le rêve, en écoutant les pas cadencés des gardes nationaux, sonnant dans la cour, qu'ils étaient des braves et qu'on les décorait. Une grande lampe, posée sur le bureau, éclairait cette étrange veillée d'armes. Rougon, qui semblait sommeiller, se leva brusquement et envoya chercher Vuillet. Il venait de se rappeler qu'il n'avait point reçu la gazette. Le libraire se montra rogue, de très méchante humeur. « Eh bien ?» lui demanda Rougon en le prenant à part. « Et l'article que vous m'aviez promis, je n'ai pas vu le journal. C'est pour cela que vous me dérangez ?» répondit Vuillet avec colère. « Parbleu, la gazette n'a pas paru. Je n'ai pas envie de me faire massacrer demain si les insurgés reviennent. » Rougon s'efforça de sourire en disant que, Dieu merci, on ne massacrerait personne. C'était justement parce que des bruits faux et inquiétants couraient que l'article en question aurait rendu un grand service à la bonne cause. « Possible !» reprit Vuillet. « Mais la meilleure des causes en ce moment est de garder sa tête sur les épaules. » Et il ajouta avec une méchanceté aiguë. « Moi qui croyais que vous aviez tué tous les insurgés, vous en avez trop laissé pour que je me risque. » Rougon restait seul, s'étonna de cette révolte d'un homme si humble, si plat d'ordinaire. La conduite de Vuillet lui parut louche, mais il n'eut pas le temps de chercher une explication. Il s'était à peine allongé de nouveau dans son fauteuil que Roudier entra, en faisant sonner terriblement sur sa cuisse un grand sabre qu'il avait attaché à sa ceinture. Les dormeurs se réveillèrent effarés. Granoux crut à un appel aux armes. « Hein, quoi, qu'est-ce qu'il y a ? » demanda-t-il, en remettant précipitamment sa calotte de soie noire dans la poche. « Messieurs, » dit Roudier essoufflé, sans songer à prendre aucune précaution oratoire, « je crois qu'une bande d'insurgés s'approche de la ville. » Ces mots furent accueillis par un silence épouvanté. Rougon, seul, eut la force de dire. « Vous les avez vus ?»« Non, » répondit l'ancien bonnetier. « Mais nous entendons d'étranges bruits dans la campagne. Un de mes hommes m'a affirmé qu'il avait aperçu des feux courants sur la pente des Garrigues. » Comme tous ces messieurs se regardaient avec des visages blancs et muets, « Je retourne à mon poste, » reprit-il. « J'ai peur de quelque attaque. Avisez de votre côté. » Rougon voulut courir après lui, avoir d'autres renseignements. Mais il était déjà loin. Certes, la commission n'eut pas envie de se rendormir. Des bruits étranges, des feux, une attaque, et cela au milieu de la nuit. Aviser, c'était facile à dire, mais que faire ? Granoux faillit conseiller la même tactique qu'il leur avait réussi la veille. Se cacher, attendre que les insurgés eussent traversé Plassans et triompher ensuite dans les rues désertes. Pierre, heureusement, se souvenant des conseils de sa femme, dit que Roudier avait pu se tromper et que le mieux était d'aller voir. Certains membres firent la grimace. Mais quand il fut convenu qu'une escorte armée accompagnerait la commission, tous descendirent avec un grand courage. En bas, ils ne laissèrent que quelques hommes. Ils se firent entourer par une trentaine de gardes nationaux. Puis, ils s'aventurèrent dans la ville endormie. La lune seule, glissant au ras des toits, allongeait ses ombres lentes. Ils allèrent vainement le long des remparts, de porte en porte, l'horizon muré, ne voyant rien, n'entendant rien. Les gardes nationaux des différents postes leur dirent bien que des souffles particuliers leur venaient de la campagne, par-dessus les portails fermés. Ils tendirent l'oreille, sans saisir autre chose qu'un bruissement lointain, que Granoux prétendit reconnaître pour la clameur de la Viorne. Cependant, ils restaient inquiets. Ils allaient rentrer à la mairie très préoccupés, tout en feignant de hausser les épaules et tout en traitant Roudier de poltron et de visionnaire, lorsque Rougon, qui avait à cœur de rassurer pleinement ses amis, eut l'idée de leur offrir le spectacle de la plaine à plusieurs lieux. Il conduisit la petite troupe dans le quartier Saint-Marc et vint frapper à l'hôtel Valqueyras. Le comte, dès les premiers troubles, était parti pour son château de Corbières. Il n'y avait à l'hôtel que le marquis de Carnavant. Depuis la veille, il s'était prudemment tenu à l'écart, non pas qu'il eût peur, mais parce qu'il lui répugnait d'être vu, tripotant avec les Rougons à l'heure décisive. Au fond, la curiosité le brûlait. Il avait dû s'enfermer pour ne pas courir se donner l'étonnant spectacle des intrigues du Salon Jaune. Quand un valet de chambre vint lui dire, au milieu de la nuit, qu'il y avait en bas des messieurs qui le demandaient, il ne put rester sage plus longtemps. Il se leva et descendit en toute hâte. « Mon cher marquis, » dit Rougon, en lui présentant les membres de la commission municipale, « nous avons un service à vous demander. Pourriez-vous nous faire conduire dans le jardin de l'hôtel ?»« Certes, » répondit le marquis étonné. « Je vais vous y mener moi-même. » Et chemin faisant, il se fit compter le cas. Le jardin se terminait par une terrasse qui dominait la plaine. En cet endroit, un large pan des remparts s'était écroulé, l'horizon s'étendait sans bornes. Rougon avait compris que ce serait là un excellent poste d'observation. Les gardes nationaux étaient restés à la porte. Tout en causant, les membres de la commission vinrent s'accouder sur le parapet de la terrasse. L'étrange spectacle qui se déroula alors devant eux les rendit muets. Au loin, dans la vallée de la Viorne, dans ce creux immense qui s'enfonçait au couchant entre la chaîne des Garrigues et les montagnes de la Seille, les lueurs de la lune coulaient comme un fleuve de lumière pâle. Les bouquets d'arbres, les rochers sombres faisaient de place en place des îlots, des langues de terre émergeant de la mer lumineuse. Et l'on distinguait, selon l'écoute de la Viorne, des bouts, des tronçons de rivière qui se montraient avec des reflets d'armure dans la fine poussière d'argent qui tombait du ciel. C'était un océan, un monde, que la nuit, le froid, la peur secrète élargissaient à l'infini. Ces messieurs n'entendirent, ne virent d'abord rien. Il y avait dans le ciel un frisson de lumière et de voix lointaines qui les assourdissaient, les aveuglaient. Granou, peu poète de sa nature, murmura cependant, gagné par la paix sereine de cette nuit d'hiver, « La belle nuit, messieurs !»« Décidément, Roudy a rêvé, » dit Rougon avec quelque dédain. Mais le marquis tendait ses oreilles fines. « Hé !» dit-il de sa voix nette, « j'entends le Tocsin !» Tous se penchèrent sur le parapet, retenant leur souffle. Et léger, avec des puretés de cristal, les tintements éloignés d'une cloche montèrent de la plaine. Ces messieurs ne purent nier. C'était bien le Tocsin. Rougon prétendit reconnaître la cloche du Béage, un village situé à une grande lieue de Plassans. Il disait cela pour rassurer ses collègues. « Écoutez, écoutez !» interrompit le marquis. « Cette fois, c'est la cloche de Saint-Maur !» Et il leur désignait un autre point de l'horizon. En effet, une seconde cloche pleurait dans la nuit claire. Puis bientôt ce furent 10 cloches, 20 cloches, dont leurs oreilles, accoutumées aux larges frémissements de l'ombre, entendirent les tintements désespérés. Des appels sinistres montaient de toutes parts, affaiblis, pareils à des râles d'agonisants. La plaine entière sanglota bientôt. Ces messieurs ne plaisantaient plus Roudier. Le marquis, qui prenait une joie méchante à les effrayer, voulut bien leur expliquer la cause de toutes ces sonneries. « Ce sont, dit-il, les villages voisins qui se réunissent pour venir attaquer Plassans au point du jour. » Granou écarquilla les yeux. « Vous n'avez rien vu là-bas » demanda-t-il tout à coup. Personne ne regardait. Ces messieurs fermaient les yeux pour mieux entendre. « Ah, tenez » reprit-il au bout d'un silence. « Au-delà de la Viorne, près de cette masse noire. »« Oui, je vois !» répondit Rougon désespéré. « C'est un feu qu'on allume !» Un autre feu fut allumé presque immédiatement en face du premier, puis un troisième, puis un quatrième. Des taches rouges apparurent ainsi sur toute la longueur de la vallée, à des distances presque égales, pareilles aux lanternes de quelque avenue gigantesque. La lune, qui les éteignait à demi, les faisait s'étaler comme des barres de sang. Cette illumination sinistre acheva de consterner la commission municipale. « Pardieu !» murmura le marquis, avec son ricanement le plus aigu. « Ces brigands se font des signaux !» Et il compta complaisamment les feux, pour savoir, disait-il, à combien d'hommes environ aurait affaire la brave garde nationale de Plassans. Rougon voulut élever des doutes. Dire que les villages prenaient les armes pour aller rejoindre l'armée des insurgés, et non pour venir attaquer la ville. Ces messieurs, par leur silence consterné, montrèrent que leur opinion était faite et qu'ils refusaient toute consolation. « Voilà maintenant que j'entends la Marseillaise !» dit Granou d'une voix éteinte. C'était encore vrai. Une bande devait suivre la Viorne et passer, à ce moment, au bas même de la ville. Le cri « Aux armes, citoyens, formez vos bataillons !» arrivait par bouffées, avec une netteté vibrante. Ce fut une nuit atroce. Ces messieurs la passèrent, accoudés sur le parapet de la terrasse, glacés par le terrible froid qu'il faisait, ne pouvant s'arracher au spectacle de cette plaine, toute secouée par le Tocsin et la Marseillaise, toute enflammée par l'illumination des signaux. Ils s'emplirent les yeux de cette mer lumineuse, piquée de flammes sanglantes. Ils se firent sonner les oreilles à écouter cette clameur vague, au point que leurs sens se faussaient, qu'ils voyaient et entendaient d'effrayantes choses. Pour rien au monde, ils n'auraient quitté la place. S'ils avaient tourné le dos, ils se seraient imaginé qu'une armée était à leur trousse. Comme certains poltrons, ils voulaient voir venir le danger, sans doute pour prendre la fuite au bon moment. Aussi, vers le matin, quand la lune fut couchée, et qu'ils n'eurent plus devant eux qu'un abîme noir, ils éprouvèrent des transes horribles. Ils se croyaient entourés d'ennemis invisibles qui rampaient dans l'ombre, prêts à leur sauter à la gorge. Au moindre bruit, c'était des hommes qui se consultaient au bas de la terrasse avant de l'escalader. Et rien, rien que du noir, dans lequel ils fixaient éperdument leur regard. Le marquis, comme pour les consoler, leur disait de sa voix ironique « Ne vous inquiétez donc pas, ils attendront le point du jour. » Rougon maugrait. Il sentait la peur le reprendre. Les cheveux de Granou achevèrent de blanchir. L'aube parut enfin, avec des lenteurs mortelles. Ce fut encore un bien mauvais moment. Ces messieurs, au premier rayon, s'attendaient à voir une armée rangée en bataille devant la ville. Justement, ce matin-là, le jour avait des paresses, se traînaient au bord de l'horizon. Le cou tendu, l'œil en arrêt, ils interrogeaient les blancheurs vagues. Et dans l'ombre indécise, ils entrevoyaient des profils monstrueux. La plaine se changeait en lac de sang, les rochers en cadavres flottant à la surface, les bouquets d'arbres en bataillons encore menaçants et debout. Puis, lorsque les clartés croissantes eurent effacé ces fantômes, le jour se leva, si pâle, si triste, avec des mélancolies telles que le marquis lui-même eut le cœur serré. On n'apercevait point d'insurgés, les routes étaient libres. Mais la vallée, toute grise, avait un aspect désert et morne de coupe-gorge. Les feux étaient éteints, les cloches sonnaient encore. Vers 8 heures, Rougon distingua seulement une bande de quelques hommes qui s'éloignaient le long de la Viorne. Ces messieurs étaient morts de froid et de fatigue. Ne voyant aucun péril immédiat, ils se décidèrent à aller prendre quelques heures de repos. Un garde national fut laissé sur la terrasse, en sentinelle, avec ordre de courir prévenir Roudier s'il apercevait au loin quelques bandes. Granot et Rougon, brisés par les émotions de la nuit, regagnèrent leur demeure qui était voisine, en se soutenant mutuellement. Félicité coucha son mari, avec toutes sortes de précautions. Elle l'appelait « pauvre chat !» Elle lui répétait qu'il ne devait pas se frapper l'imagination comme cela, et que tout finirait bien. Mais lui secouait la tête. Il avait des craintes sérieuses. Elle le laissa dormir jusqu'à 11 heures. Puis, quand il eut mangé, elle le mit doucement dehors en lui faisant entendre qu'il fallait aller jusqu'au bout. À la mairie, Rougon ne trouva que 4 membres de la commission. Les autres se firent excuser. Ils étaient réellement malades. La panique, depuis le matin, soufflait sur la ville avec une violence plus âpre. Ces messieurs n'avaient pu garder pour eux le récit de la nuit mémorable passée sur la terrasse de l'hôtel Valqueiras. Leur bonne s'était empressée de répandre la nouvelle, en l'enjolivant de détails dramatiques. À cette heure, c'était chose acquise à l'histoire qu'on avait vu dans la campagne des hauteurs de Plassans des danses de cannibales dévorant leurs prisonniers, des rondes de sorcières tournant autour de leurs marmites où bouillaient des enfants, d'interminables défilés de bandits dont les armes luisaient au clair de lune. Et l'on parlait des cloches qui sonnaient d'elles-mêmes le tocsin dans l'air désolé. Et l'on affirmait que les insurgés avaient mis le feu aux forêts des environs et que tout le pays flambait. On était au mardi, jour de marché à Plassans. Roudy avait cru devoir faire ouvrir les portes toutes grandes pour laisser entrer les quelques paysannes qui apportaient des légumes, du beurre et des œufs. Dès qu'elle fut assemblée, la commission municipale, qui ne se composait plus que de 5 membres en comptant le président, déclara que c'était là une imprudence impardonnable. Bien que la sentinelle laissée à l'hôtel Valqueiras n'eût rien vu, il fallait tenir la ville close. Alors Rougon décida que le crieur public, accompagné d'un tambour, irait par les rues proclamer la ville en état de siège et annoncer aux habitants que quiconque sortirait ne pourrait plus rentrer. Les portes furent officiellement fermées en plein midi. Cette mesure, prise pour rassurer la population, porta l'épouvante à son comble. Et rien ne fut plus curieux que cette cité qui se cadenassait, qui poussait les verrous sous le clair soleil au bon milieu du 19e siècle. Quand Plassans eut bouclé et serré autour de lui la ceinture usée de ses remparts, quand il se fut verrouillé comme une forteresse assiégée aux approches d'un assaut, une angoisse mortelle passa sur les maisons mornes. À chaque heure, du centre de la ville, on croyait entendre les fusillades éclater dans les faubourgs. On ne savait plus rien. On était au fond d'une cave, d'un trou muré, dans l'attente anxieuse de la délivrance ou du coup de grâce. Depuis 2 jours, les bandes d'insurgés qui battaient la campagne avaient interrompu toutes les communications. Plassans, acculé dans l'impasse où il est bâti, se trouvait séparé du reste de la France. Il se sentait en plein pays de rébellion. Autour de lui, le tocsin sonnait, la Marseillaise grondait avec des clameurs de fleuves débordés. La ville, abandonnée et frissonnante, était comme une proie promise aux vainqueurs, et les promeneurs du cours passaient, à chaque minute, de la terreur à l'espérance, en croyant apercevoir à la grande porte tantôt des blouses insurgées et tantôt des uniformes de soldats. Jamais sous-préfecture, dans son cachot de murs croulants, n'eut une agonie plus douloureuse. Vers 2 heures, le bruit se répandit que le coup d'État avait manqué. Le prince-président était au donjon de Vincennes. Paris se trouvait entre les mains de la démagogie la plus avancée. Marseille, Toulon, Draguignan, tout le midi, appartenait à l'armée insurrectionnelle victorieuse. Les insurgés devaient arriver le soir et massacrer Plassans. Une députation se rendit alors à la mairie pour reprocher à la commission municipale la fermeture des portes, bonne seulement à irriter les insurgés. Rougon, qui perdait la tête, défendit son ordonnance avec ses dernières énergies. Ce double tour, donné aux serrures, lui semblait un des actes les plus ingénieux de son administration. Il trouva pour le justifier des paroles convaincues. Mais on l'embarrassait. On lui demandait où étaient les soldats, le régiment qu'il avait promis. Alors il mentit. Il dit très carrément qu'il n'avait rien promis du tout. l'absence de ce régiment légendaire, que les habitants désiraient au point d'en avoir rêvé l'approche, était la grande cause de la panique. Les gens bien informés citaient l'endroit exact de la route où les soldats avaient été égorgés. À 4 heures, Rougon, suivi de Granou, se rendit à l'hôtel Valqueyras. De petites bandes, qui rejoignaient les insurgés à Orchères, passaient toujours au loin dans la vallée de la Vienne. Toute la journée, des gamins avaient grimpé sur les remparts. Des bourgeois étaient venus regarder par les meurtrières. Ces sentinelles volontaires entretenaient l'épouvante de la ville, en comptant tout haut les bandes, qui étaient prises pour autant de forts bataillons. Ce peuple poltron croyait assister des créneaux aux préparatifs de quelques massacres universels. Au crépuscule, comme la veille, la panique souffla, plus froide. En rentrant à la mairie, Rougon et l'inséparable Granou comprirent que la situation devenait intolérable. Pendant leur absence, un nouveau membre de la commission avait disparu. Il n'était plus que 4. Ils se sentirent ridicules, la face blême, à se regarder pendant des heures sans rien dire. Puis, ils avaient une peur atroce de passer une seconde nuit sur la terrasse de l'hôtel Valqueyras. Rougon déclara gravement que, l'état des choses demeurant le même, il n'y avait pas lieu de rester en permanence. Si quelque événement grave se produisait, on irait les prévenir. Et par une décision, dûment prise en conseil, il se déchargea sur Roudier des soins de son administration. Le pauvre Roudier, qui se souvenait d'avoir été garde national à Paris sous Louis-Philippe, veillait à la grand-porte, avec conviction. Pierre rentra l'oreille basse, se coulant dans l'ombre des maisons. Il sentait autour de lui Plassans lui devenir hostile. Il entendait dans les groupes courir son nom, avec des paroles de colère et de mépris. Ce fut en chancelant et la sueur aux tempes qu'il monta l'escalier. Félicité le reçut, silencieuse, la mine consternée. Elle aussi commença à désespérer. Tous leurs rêves croulaient. Ils se tinrent là, dans le salon jaune, face à face. Le jour tombait, un jour sale d'hiver, qui donnait des teintes boueuses au papier orange à grand ramage. Jamais la pièce n'avait paru plus fanée, plus sordide, plus honteuse. Et à cette heure, ils étaient seuls. Ils n'avaient plus, comme la veille, un peuple de courtisans qui les félicitaient. Une journée venait de suffire pour les vaincre, au moment où ils chantaient victoire. Si le lendemain, la situation ne changeait pas, la partie était perdue. Félicité, qui, la veille, songeait aux plaines d'Austerlitz en regardant les ruines du Salon Jaune, pensait maintenant à le voir si morne et si désert au champ maudit de Waterloo. Puis, comme son mari ne disait rien, elle alla machinalement à la fenêtre. À cette fenêtre où elle avait humé avec délice l'encens de toute une sous-préfecture. Elle aperçut des groupes nombreux en bas sur la place. Elle ferma les persiennes, voyant des têtes se tourner vers leur maison et craignant d'être huées. On parlait d'eux, elle en eut le pressentiment. Des voix montaient dans le crépuscule. Un avocat clamaudait, du ton d'un plaideur qui triomphe. « Je l'avais bien dit, les insurgés sont partis tout seuls, et ils ne demanderont pas la permission des 41 pour revenir. Les 41, quelle bonne farce! Moi, je crois qu'ils étaient au moins 200. Mais non, dit un gros négociant marchand d'huile et grand politique. Ils n'étaient peut-être pas 10, car enfin, ils ne se sont pas battus. On aurait bien vu le sang le matin. Moi qui vous parle, je suis allé à la mairie pour voir. La cour était propre comme ma main. » Un ouvrier, qui se glissait timidement dans le groupe, ajouta. « Il ne fallait pas être malin pour prendre la mairie. La porte n'était pas même fermée. » Des rires accueillirent cette phrase. Et l'ouvrier, se voyant encouragé, reprit. « Les Rougons, c'est connu, c'était pas grand-chose. » Cette insulte alla frapper Félicité au cœur. L'ingratitude de ce peuple la navrait, car elle finissait elle-même par croire à la mission des Rougons. Elle appela son mari. Elle voulut qu'il prît une leçon sur l'instabilité des foules. « C'est comme leur glace, » continua l'avocat. « Ont-ils fait assez de bruit avec cette malheureuse glace cassée ? Vous savez que ce Rougon est capable d'avoir tiré un coup de fusil dedans pour faire croire à une bataille. » Pierre retint un cri de douleur. On ne croyait même plus à sa glace. Bientôt, on irait jusqu'à prétendre qu'il n'avait pas entendu siffler une balle à son oreille. La légende des Rougons s'effacerait. Il ne resterait rien de leur gloire. Mais il n'était pas au bout de son calvaire. Les groupes s'acharnaient aussi vertement qu'ils avaient applaudi la veille. Un ancien fabricant de chapeaux, vieillard de 70 ans, dont la fabrique se trouvait jadis dans le faubourg, fouilla le passé des Rougons. Il parla vaguement, avec les hésitations d'une mémoire qui se perd, de l'enclos des Fouques, d'Adélaïde, de ses amours avec un contrebandier. Il en dit assez pour donner au commérage un nouvel élan. Les causeurs se rapprochèrent. Les mots de canaille, de voleur, d'intrigon éhonté montaient jusqu'à la persienne, derrière laquelle Pierre et Félicité suaient la peur et la colère. On en vint sur la place à plaindre Macquart. Ce fut le dernier coup. Hier, Rougon était un Brutus, une âme stoïque qui sacrifiait ses affections à la patrie. Aujourd'hui, Rougon n'était plus qu'un vil ambitieux qui passait sur le ventre de son pauvre frère et s'en savait comme d'un marchepied pour monter à la fortune. « tu entends ?» murmurait Pierre d'une voix étranglée. « Ah, les gredins, ils nous tuent ! Jamais nous ne nous en relèverons !» Félicité, furieuse, tambourinait sur la persienne du bout de ses doigts crispés, et elle répondait « Laisse-les dire, va ! Si nous redevenons les plus forts, ils verront de quel bois je me chauffe. Je sais d'où vient le coup. La ville neuve nous en veut. » Elle devinait juste. L'impopularité brusque des Rougons était l'œuvre d'un groupe d'avocats qui se trouvait très vexé de l'importance qu'avait prise un ancien marchand d'huile illettré et dont la maison avait risqué la faillite. Le quartier Saint-Marc, depuis 2 jours, était comme mort. Le vieux quartier et la ville neuve restaient seuls en présence. Cette dernière avait profité de la panique pour perdre le salon jaune dans l'esprit des commerçants et des ouvriers. Roudier et Granou étaient d'excellents hommes, d'honorables citoyens, que ces intrigants de Rougon trompaient. On leur ouvrirait les yeux. À la place de ce gros ventru, de ce gueux qui n'avait pas le sou, M. Isidore Granou n'aurait-il pas dû s'asseoir dans le fauteuil du maire? Les envieux partaient de là pour reprocher à Rougon tous les actes de son administration qui ne dataient que de la veille. Il n'aurait pas dû garder l'ancien conseil municipal. Il avait commis une sottise grave en faisant fermer les portes. C'était par sa bêtise que 5 membres avaient pris une fluxion de poitrine sur la terrasse de l'hôtel Valqueyras. Et il ne tarissait pas. Les républicains, eux aussi, relevaient la tête. On parlait d'un coup de main possible, tenté sur la mairie par les ouvriers du faubourg. La réaction râlait. Pierre, dans cet écroulement de toutes ses espérances, songea aux quelques soutiens sur lesquels, à l'occasion, il pourrait encore compter. « Est-ce qu'Aristide, demanda-t-il, ne devait pas venir ce soir pour faire la paix ?»« Oui, répondit Félicité. Il m'avait promis un bel article. L'indépendant n'a pas paru. » Mais son mari l'interrompit en disant « Eh, n'est-ce pas lui qui sort de la sous-préfecture ?» La vieille femme ne jeta qu'un regard. « Il a remis son écharpe » cria-t-elle. Aristide, en effet, cachait de nouveau sa main dans son foulard. L'Empire se gâtait, sans que la République triomphât, et il avait jugé prudent de reprendre son rôle de mutilé. Il traversa sournoisement la place sans lever la tête. Puis, comme il entendit sans doute dans les groupes des paroles dangereuses et compromettantes, il se hâta de disparaître au coude de la rue de Labanne. « Va, il ne montera pas, » dit amèrement Félicité. « Nous sommes à terre. Juste à nos enfants qui nous abandonnent. » Elle ferma violemment la fenêtre pour ne plus voir, pour ne plus entendre. Et quand elle lui allumait la lampe, ils dînèrent, découragés, sans faim, laissant les morceaux sur leur assiette. Ils n'avaient que quelques heures pour prendre un parti. Il fallait qu'au réveil, ils tinssent plaçant sous leurs talons et qu'ils lui fissent demander grâce, s'ils ne voulaient renoncer à la fortune rêvée. Le manque absolu de nouvelles certaines était l'unique cause de leur indécision anxieuse. Félicité, avec sa netteté d'esprit, comprit vite cela. S'ils avaient pu connaître le résultat du coup d'État, ils auraient payé d'audace et continué quand même leur rôle de sauveur. Ou ils se seraient hâtés de faire oublier le plus possible leur campagne malheureuse. Mais ils ne savaient rien de précis. Ils perdaient la tête. Ils avaient des sueurs froides à jouer ainsi leur fortune sur un coup de dé, en pleine ignorance des événements. Et ce diable de jeune qui ne m'écrit pas, s'écria Rougon dans un élan de désespoir, sans songer qu'il livrait à sa femme le secret de sa correspondance. Mais Félicité feignit de ne pas avoir entendu. Le cri de son mari l'avait profondément frappé. En effet, pourquoi Eugène n'écrivait-il pas à son père? Après l'avoir tenu si fidèlement au courant des succès de la cause bonapartiste, il aurait dû s'empresser de lui annoncer le triomphe ou la défaite du prince Louis. La simple prudence lui conseillait la communication de cette nouvelle. S'il se taisait, c'était que la République victorieuse l'avait envoyé rejoindre le prétendant dans les cachots de Vincennes. Félicité se sentit glacée. Le silence de son fils tuait ses dernières espérances. Fin de la section 13.